ce matin, j'ai le grand plaisir, l'honneur d'avoir Madame Leïla Chahid, que vous connaissez certainement, qui a été ambassadrice de la Palestine à Paris, et puis ensuite à Bruxelles, auprès de l'Union européenne. Mais elle a eu d'autres fonctions avant, et puis c'est avant tout une militante de la cause palestinienne. Chère Leïla, je te cède immédiatement la parole.
Merci, merci, merci Henri. Il faudrait que je m'habitue à l'appeler professeur, comme je le connais très bien. C'est un peu difficile, mais je vais faire l'effort. Alors, je suis vraiment très impressionnée d'être dans cette magnifique salle. Je connais les bureaux de mes amis qui ont été au Collège de France, et je ne peux pas ne pas penser au premier à qui j'ai rendu visite ici, que vous ne connaissez pas, à moins que vous ayez été peut-être au collège, c'est le professeur Paul Kessler. Paul Kessler était un physicien nucléaire qui a milité beaucoup après la chute du mur et même avant pour la liberté des juifs russes de sortir de l'Union soviétique. Donc c'était avant le mur. On a eu beaucoup d'arguments, en particulier à l'égard d'un qui est devenu un ministre colon et qui a pu partir grâce au militantisme de Paul Kessler, qui a fondé, il faut que vous le sachiez, le premier comité de soutien à l'université de Birzeit en 1987, lorsque, à la première intifada en Palestine, les autorités israéliennes n'avaient pas trouvé mieux que de fermer les quatre universités palestiniennes. Et donc, Paul Kessler, avec Sonia Dayan et beaucoup d'autres... alors maintenant, comme je commence à vieillir, il faudra me pardonner lorsque j'oublie les noms. Un autre ami professeur, Yvan, ça va venir. Et donc, qui était aussi professeur, pas au Collège de France, mais à l'université, qui est toujours d'ailleurs très actif. Et ils avaient fait ce premier comité. Et comme il était une personnalité très respectée en Israël, parce qu'il a fait campagne pour la liberté des citoyens juifs soviétiques de sortir de chez eux, le fait que soudain il arrive en Israël et dans les territoires palestiniens en parlant du droit des Palestiniens à l'éducation et que cette fermeture d'université était inacceptable, ils l'ont pris très au sérieux. Malheureusement, il nous a quittés, mais je ne peux pas être entre ces murs de cette institution si prestigieuse sans avoir une pensée pour lui. Alors, mon ami le professeur Laurence m'a dit qu'il m'invitait à un séminaire il y a quelques mois. Et moi, un séminaire, pour moi, c'est 20 personnes, 25 personnes. Donc, hier, j'ai eu la bonne idée de lui dire « Combien tu attends d'élèves ?» Et il me dit « Oh, peut-être une centaine. » J'ai dit « Dans un séminaire ?» Il me dit « Oui, mais c'est un séminaire au Collège de France. » Et je lui ai dit, oui, je sais bien, le Collège de France, il est ouvert à tout le monde, mais il y en a tellement qui sont intéressés par le sujet. Il m'a dit, on verra demain. Alors, vous êtes nombreux. Et je suis très impressionnée, après toutes ces années, que vous soyez toujours, j'ai rencontré, vous avez vu, j'ai embrassé tous les gens que je connais, mais je n'ai pas regardé derrière encore. Je suis très impressionnée qu'après toutes ces années, le Proche-Orient en général, mais la Palestine en particulier, puisque c'est de Palestine que moi je vais traiter. Les collègues dont parlait le professeur Laurence viendront parler de leur diplomatie à eux. Beaucoup sont des gens que je connais bien, avec qui j'ai beaucoup travaillé, en particulier lorsque j'étais ambassadeur en France. Il faut que je vous dise que j'ai cassé les records, parce que je suis restée 13 ans. C'est un peu honteux à dire, mais c'est la vérité. Je suis restée 13 ans. D'habitude, les ambassadeurs restent 4 ans. Comme je suis l'ambassadeur d'un pays qui n'a pas d'État, et donc d'un État qui n'existe pas, je suis dans l'exception. Et donc, je suis très heureuse de voir, vraiment heureuse de voir, parce que même si je ne suis plus ambassadeur, je n'ai plus voulu être ambassadeur, parce que je vais choquer le professeur Laurence, mais je pense qu'il n'y a plus de diplomatie. Et donc, j'avais l'impression que c'était de la supercherie de continuer à dire, j'étais à l'Union européenne, comme a dit Henri, mais il n'y avait plus de diplomatie. Avant tout, pas de diplomatie palestinienne, ni de diplomatie arabe, même pas une vraie diplomatie européenne, je vous dirai pourquoi, et alors l'américaine, n'en parlons pas. Il y a eu de la diplomatie la période d'Oslo, c'était de la vraie diplomatie. Ça ne veut pas dire qu'Oslo était sans faute, au contraire. Il y a eu de la diplomatie après 67, il y a eu de la diplomatie en 48, même en 47. Même quelqu'un comme Toynbee a été, pour ton information, très lié avec Moussa al-Alami, une diplomatie dans les années 30, sous mandat britannique. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, malheureusement, et je crois qu'il sait parler aux dieux, le professeur Laurence, parce que hier, il y a eu une preuve que je peux vous donner sur l'absence de diplomatie, c'est que M. Trump a décidé qu'occuper un territoire par la force militaire, déplacer une population pour en faire des colons dans le territoire occupé, est légal. M. Pompei a décidé que, étant donné que ce n'est pas illégal, les États-Unis d'Amérique considèrent que les colonies sont légitimes. C'est très grave, c'est très, très grave. Pas que je me fasse d'illusions sur le fait que les résolutions dénonçant les colonies sont des choses qui peuvent être automatiquement traduites en action diplomatique ou politique ou comme pression, mais que le président, on ne va pas maintenant discuter de lui parce qu'on va devenir hystérique, il vaut mieux que je ne devienne pas hystérique, mais le président, pour moi, je ne veux même pas dire son nom, le président des États-Unis, le président malheureusement élu des États-Unis, dit officiellement que l'occupation d'un territoire et le déplacement d'une population dans le territoire occupé, la transformation de ces soi-disant villages, parce que c'est comme ça qu'ils les appellent, c'est comme ça qu'ils les vendent, des villages juifs, ce n'est pas des villages juifs, c'est des colonies artificielles créées pour conquérir du territoire. Et ces colonies ont une vie sociale, culturelle, politique, bien sûr, mais surtout économique. On y reviendra parce qu'il y a aussi des choses importantes dans l'autre sens. Et donc, ça rend toute notre discussion sur la diplomatie très importante à la lumière des événements. C'est drôle comment... C'est peut-être pour ça que vous êtes tellement nombreux. C'est qu'il y a tellement de rebondissements. Chaque fois, vous pensez qu'on est arrivé au pire, qu'on ne peut pas avoir pire. Ils ont conquis les territoires, ils ont annexé Jérusalem, ils ont annexé le Golan, il y a 7000 prisonniers, Gaza est complètement assiégée, ils ont tué une famille de 8 personnes en un jour parce qu'ils ont décidé que ce monsieur allait faire une opération, il n'avait rien fait encore, hein, lorsqu'ils ont lâché la bombe il y a une semaine sur Baha Aboul-Ata, le tuant lui, sa femme, ses enfants, son frère et ses enfants, il n'avait pas encore fait quoi que ce soit. Mais les Israéliens ont décidé que c'est un dangereux islamiste qui allait faire une opération terroriste et l'ont tué avant. Mais, pour ne pas vous faire avoir par les manigances de M. Netanyahou, c'était uniquement sur des questions électorales intérieures israéliennes. Cette magnifique détérioration de la situation au Soudan, premièrement l'assassinat de ce responsable du djihad islamique, mais le lendemain, ils ont continué à bombarder, ils ont tué 34 personnes en deux jours. Lesquelles 34 personnes? Une bonne partie sont des civils, et lorsque l'affaire, grâce à Dieu qu'en Israël, il y a une presse qui est honnête, la presse israélienne était choquée, qu'on tue 8 personnes d'une même famille, ils ont dit, on s'excuse, on avait des fausses informations de nos renseignements, et on va ouvrir une enquête. Alors, ouvrir une enquête, c'est une insulte à votre intelligence. Ils n'ont pas besoin d'enquête, puisque c'est eux qui ont donné l'ordre à leur pilote de bombarder. Ils vont enquêter sur qui? Le chef d'état-major? Ou le ministre de la Défense, M. Naftali Bennett? Ou M. Netanyahou, le premier ministre intérim en attendant la formation d'un nouveau gouvernement? Ils se foutent du monde en disant qu'ils font une enquête. Et donc, je voudrais dire à professeur Laurence qu'ils ont de la chance de t'avoir, parce que je ne suis vraiment pas la personne qu'on peut appeler un diplomate. Parce que, pas parce que je suis femme, mais parce que on m'a donné différents noms. Au début, je m'appelais représentante de l'OLP. Mon prédécesseur, que Dieu ait son âme, Ezzedine Kalak, a été appelé directeur du bureau d'information, assassiné en France en 1978. Avant lui, Mahmoud El-Hamchari, assassiné en France en 1972, s'appelait le directeur du bureau d'information. Il n'y avait même pas le mot Palestine. Et moi, grâce à François Mitran, qui, invitant Arafat à Paris en 1989, considère qu'on n'a pas été très juste à l'égard des Palestiniens, et en particulier de Yasser Arafat. Donc, il dit à son ami Roland Dumas, on ne va pas continuer à les appeler bureau d'information quand même. Maintenant, il vient en visite invitée par moi, en visite officielle en France. Il n'est pas seulement, son représentant ne peut pas être uniquement un bureau d'information, parce que sinon, on ne l'aurait pas invité à lui. Alors, trouve-moi un titre qu'on peut donner, puisque le 15 novembre, il y a 15 novembre 1988, nous avons reconnu au Conseil national palestinien Alger l'État d'Israël dans ses frontières de 67. C'était pour les Palestiniens un séisme intellectuel, politique, humain. Moi, j'ai entendu des gens se lever en sanglotant et en disant à Arafat, mais moi, je suis né à Jaffa. Comment tu veux que je reconnaisse Jaffa comme israélienne ? Et Arafat leur a répondu avec un très grand sens du pragmatisme. Tu veux une solution ? Il ne peut y avoir que deux États. On ne va pas refaire l'histoire. Ceux qui sont venus pour devenir des citoyens israéliens ne vont pas repartir en Pologne, en Russie, en Allemagne. Donc, il faut faire un compromis. Et le compromis, c'est qu'on reconnaisse leur territoire. On ne va pas revenir au plan de partage de 1947 parce qu'il faudra déplacer des populations. Et nous, ayant beaucoup souffert de nettoyage ethnique, nous n'allons pas faire un nettoyage ethnique. Donc, nous considérons que les territoires où la majorité des Palestiniens habitent, ça veut dire Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, c'est l'État que nous allons proclamer, et que le reste est l'État d'Israël qui a été fondé en 1948, bien sûr sur les décombres de notre pays et de notre nation, mais comme nous cherchons une solution, il faudra qu'on accepte de reconnaître que nous avons un partenaire et peut-être que ça va ouvrir la voie à la paix. C'est ce qu'il pensait, le malheureux, en 1988. Alors vous imaginez ceux qui ont renoncé à leurs droits. Moi aussi, ma mère, elle est née à Jérusalem Ouest, pas à Jérusalem Est, parce que tout Jérusalem était arabe, pas seulement sa moitié. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez unique dans le choix de la Palestine comme première discussion sur les acteurs en diplomatie, c'est que ce statut dont je vous parlais, qui est que je ne suis pas exactement une diplomate, m'a causé beaucoup de problèmes avec mes collègues ambassadeurs arabes. Nos amis présents qui ont fréquenté le même milieu comprennent de quoi je parle, parce que j'étais une petite femme qui n'a jamais fait d'études de diplomatie, ni Sciences Po, ni ENA, ni Harvard, ni Cambridge, et que l'attention que m'accordaient les institutions françaises politiques, l'attention que m'accordaient les médias, était disproportionnée par rapport à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, ou à l'ambassadeur du Maroc, ou à l'ambassadeur du Liban. Et ça ne venait vraiment pas de moi. Ça venait de ce que, et il a très bien fait de dire ce qu'il a dit, parce que dans mes notes écrites, ce n'est pas un conflit, c'est une cause. La Palestine, s'il vous plaît, ne l'appelez jamais conflit. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, parce qu'un conflit, c'est entre deux protagonistes qui sont pratiquement deux armées, deux États, deux puissances. Nous, on n'en a jamais été. Et même s'il y a eu Oslo, on ne reconnaît même pas d'État palestinien. Nous, nous sommes une cause. Et moi, j'aime, monsieur le professeur, il faudra me dire ce que vous en pensez tout à l'heure, comment les Nations Unies ont appelé ça « The question of Palestine ». Je trouve que c'est très beau. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas historienne. Vous nous direz, tu nous diras, si vraiment il y a d'autres questions politiques importantes sur le plan international qu'on appelle questions. Et lorsque je dis cause, les gens sont mal à l'aise parce qu'elle redevient militante, chahide, elle nous embête, parce que cause, ça fait militant. Donc, mais moi, je trouve que question aux Nations Unies, c'est très intéressant. Il faudrait savoir d'où ça vient. Et donc, parce que la Palestine est une cause et une question qui pose beaucoup de problèmes à des gens comme vous, qui s'intéressent, que vous soyez chercheur ou acteur ou observateur ou témoin ou historien, parce que ça fait pratiquement 100 ans. Rabin a eu raison lorsqu'il a dit dans son grand discours à Washington le 13 septembre 1993, c'est une question qui a 100 ans parce qu'elle commence même avant la création de l'État. Elle commence avec le congrès de Bâle lorsqu'on veut faire un État national juif en Palestine. Et donc, c'est peut-être une des questions qui a le plus de résolutions accumulées dans les tiroirs aux Nations Unies, qu'on n'a malheureusement pas vu mis en œuvre. Mais Elle a occupé la diplomatie internationale, qu'elle soit institutionnelle ou d'acteur ou d'observateur ou d'historien. Et donc, c'est intéressant de commenter par celle-là. Ça veut dire celle où la diplomatie est l'œuvre avant tout des acteurs. Et ce n'est pas moi l'acteur. L'acteur, c'est le peuple palestinien. Le peuple palestinien, là où il est, ça veut dire ça commence vraiment dans les camps de réfugiés, parce que toute l'OLP n'a pas commencé ni en Cisjordanie, ni à Gaza, ni à Jérusalem. Elle a commencé dans les camps de réfugiés, avec des réfugiés eux-mêmes. Yasser Arafat, Abu Iyad, Abu Jihad, Mahmoud Abbas, tout ça, ce sont des réfugiés qui étaient au Caire, au Qatar, en Syrie, en Arabie Saoudite, et qui ont décidé, une fois que leur tourbillon, après la Nakba, vous savez, le mot Nakba, c'est très important de le connaître en arabe. Nakba, ça veut dire la catastrophe. Et la catastrophe, elle vous laisse un peu groggy, elle vous laisse un peu déstabilisé pendant quelques années. C'est un traumatisme très grave, parce que nous sommes avant tout une société de paysans, et soudain, on est propulsé dans des camps de réfugiés à travers le monde arabe, qui a la gentillesse de nous accueillir. Donc, Jordanie, Syrie, Liban, tous les pays du Golfe, parce que nous voulons reprendre quelque chose du travail à la place de la culture de la terre, qui était la fonction principale de cette société. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de très important. Pour moi, le vrai acteur, et moi, j'ai toujours comme ça conçu mon boulot, et peut-être, peut-être parmi tous les gens qui sont là, toi, le professeur Laurence, tu sais le plus que j'ai toujours dit que moi, je ne suis que la représentante du peuple palestinien. Je ne suis ni ambassadeur, ni acteur, ni... Je suis le porte-parole. C'est comme ça que la première reconnaissance de l'OLP en 1974 à Rabat dit, parce qu'avant ça, il y avait plein de gens qui voulaient représenter la Palestine. La monarchie jordanienne, le Nasser du nasserisme, la Syrie à un moment donné. Et donc, en 1974, Arafat arrive à arracher au sommet arabe que l'OLP est le seul représentant du peuple palestinien. Pourquoi le seul ? Parce qu'il fallait, unifier la voix des Palestiniens, la voix de la nation palestinienne, pour qu'on sache ce qu'elle veut. Parce que sinon, comme maintenant vous voyez leur alibi, on ne peut pas négocier parce qu'il y a Hamas et Fatah. Mais dans tous les peuples, il y a plusieurs partis politiques. Pourquoi chez les Palestiniens, fallait-il qu'il y ait un seul parti ? En tout cas, je ne vais pas faire de l'histoire, ce n'était pas du tout mon propos, mais pour vous expliquer pourquoi je vous dis que le premier acteur, pas seulement en Palestine, mais dans le monde entier. Vous vous attendiez qu'à Hong Kong, depuis 5 mois, des milliers de jeunes menacent la stabilité de la grande Chine, qui peut-être va être la superpuissance, qui va battre la superpuissance américaine. Vous vous attendiez que dans un pays comme l'Algérie, après 50 ans d'acceptation, le peuple entier, depuis bientôt 10 mois, 11 mois, se lève pour dire qu'il n'est pas d'accord avec son gouvernement. Vous vous attendiez qu'au Liban, qu'on a décrit comme très joli endroit où on danse très bien, on mange très bien, on s'habille très bien, aller depuis maintenant plus d'un mois, tous les jours, avec une jeunesse qui a moins de 30 ans, manifester pour dire on est contre le système confessionnel, on ne veut plus le voir, et on est contre la corruption, on est pour la laïcité, et nous, nous vous ferons reculer. Et hier, ils ont arrivé même à annuler une réunion du Parlement. Vous savez pourquoi ils ne voulaient pas la réunion ? Pas parce qu'ils sont contre le Parlement. Parce que figurez-vous qu'après tout ce qu'ils ont dit, le président du Parlement voulait faire voter une loi d'amnistie de tous les voleurs parmi les membres du Parlement et les membres du gouvernement. Amnistie. Parce qu'il y a plein de cas devant les tribunaux sur des détournements de fonds, inclus des fonds français. C'est pour ça que les Français, d'ailleurs, mettent des freins. Ils ne les envoient plus parce qu'ils ne savent pas où ils vont, les fonds. Et donc, ils ont demandé ce qu'on appelle les réformes dans la conférence CEDRE, la conférence pour les 13 milliards que la communauté internationale a pris au Liban. Mais ils ne vont pas les envoyer avant de savoir si les voleurs qui ont pris ce qu'on a déjà envoyé sont toujours là. C'est pour ça qu'ils ont annulé la session du Parlement avec une chose très simple. Ils se sont tous assis place de l'horloge, qu'on appelle place de l'horloge, dire à l'adresse où le Parlement existe. Et donc, il n'y a pas eu de session. C'est vous dire le pouvoir des acteurs. Le pouvoir des acteurs à Hong Kong, le pouvoir des acteurs au Chili, les pouvoirs des acteurs en Algérie, les pouvoirs des acteurs au Soudan. Au Soudan, vous avez au Soudan, qui est depuis 30 ans sous les bottes d'un régime militaire, ils se sont levés et ils ont fait reculer un pouvoir militaire, par ailleurs financé par l'Arabie saoudite, parce qu'islamiste, par intérêt, pas du tout par conviction. Et donc, maintenant, vous avez un gouvernement civil où il y a quelques militaires. C'est pour vous dire que le mot acteur est génial, professeur. Les acteurs, c'est avant tout les peuples qui se défendent. Bien sûr, il y a des diplomates français, américains, anglais, arabes, chinois, canadiens. Je me félicite du changement de la position du Canada, d'ailleurs, ce matin. On en reparlera après. Mais nous, les pays en conflit, comme dit la presse, ça veut dire les lieux où ça va mal, où il y a des luttes, c'est les luttes qui vraiment sont les vrais acteurs. Après, ces luttes doivent être portées, la parole de ces gens qui luttent doivent être portées par des diplomates, par des gens qui sont concernés. Elle peut être aussi par des puissances concernées, des puissances qui défendent vraiment les valeurs qu'ils professent comme étant leur Bible et leur Torah et leur Coran. Démocratie, laïcité, égalité des droits, démocratie, mais ça c'est souvent du blabla, parce que ces puissances, j'ai vécu avec eux pendant 10 ans à Bruxelles, et leurs meilleures relations financières, économiques et commerciales sont avec les pires régimes du monde arabe, les pires. Et lorsque vous leur dites, mais comment vous pouvez justifier qu'on lapide une femme adultère et qu'on coupe la main d'un voleur en Arabie Saoudite avec qui vous avez les meilleures relations, on vous dit, mais écoutez, économie oblige, il faut bien que nos usines de fabrication d'armes fonctionnent, inclus en France d'ailleurs. Et donc, je crois que le premier acteur, c'est vraiment les citoyens. Les citoyens, surtout lorsque, vous savez, ils m'auraient invité il y a un an, je lui ai dit non, je suis trop déprimée pour venir. Parce que ce qui se passe est catastrophique. Mais depuis qu'il y a cette levée, ce réveil de cette jeunesse, d'une société civile arabe qui commence d'ailleurs avec le printemps palestinien, qui perd la première bataille puisqu'ils ne sont pas capables d'organiser des élections, donc les islamistes les remplacent. Mais j'ai toujours dit qu'ils sont rentrés sous terre, mais ils vont réapparaître. Ils ont réapparu, inclus dans des lieux... Vous vous rappelez ? Je suis certaine que vous vous rappelez. Qu'on disait, mais où sont les Algériens? Où sont les Algériens? Et les Algériens me disaient, mais Leïla, on a eu 200 000 morts, qu'est-ce que tu veux, une nouvelle guerre civile? Ils sont sortis au moment où ils voulaient sortir. Et ça, c'est magnifique, j'en ai la chair de poule. Parce que moi, je désespérais, moi, je suis une grande amie de l'Algérie, je désespérais de voir les Tunisiens étaient extraordinaires, les Syriens étaient extraordinaires, et je ne voyais pas les Algériens. Et donc, vous voyez, les sociétés ont une horloge intérieure, un rythme, une vitalité que très peu de régimes peuvent écraser pour toujours. Quelques années peut-être, quelques décennies peut-être, mais ça finit par sortir. Et donc je dirais qu'eux, ils sont les premiers acteurs, mais ils ont un immense besoin aussi de diplomates. Et ils ont, quelquefois, ils me font de la peine, les Palestiniens, parce qu'ils ont une telle foi dans vos institutions qu'ils me disent, mais l'Union européenne, je dis oui, mais l'Union européenne, elle n'est pas unie. L'Union européenne, il y a 28 États, il y a 17 positions. Et c'est très compliqué d'expliquer à une population qui s'ouvre sous l'occupation depuis 52 ans ce que ça veut dire l'unanimité de la décision. Comme ils ne peuvent prendre une position que lorsqu'ils sont tous d'accord, qu'il y a toujours un petit pays que Israël ou le CRIF ou les lobbies électoraux, parce que c'est toujours une affaire électorale. Surtout, ne croyez pas que c'est par culpabilité. C'est même pas ça. Ça, j'aurais accepté la culpabilité. Mais vraiment, c'est par calcul électoral où ils ont plus de voix. Hier, la Hollande a rejeté une décision très importante de la Cour de justice européenne. Vraiment, vous pensez que c'est parce qu'ils sont plus, ils aiment Israël plus que les Français? Pas du tout, parce que c'est le lobby électoral et le nombre de voix qu'on leur apporte qui décide. Et donc, je voudrais rendre hommage à deux autres acteurs aujourd'hui. Vous allez être surpris. Le premier acteur, c'est la Cour de justice européenne. Parce que la Cour de justice, il y a moins de 10 jours, le 12 novembre, je crois, a, grâce à vous, Français, parce qu'en 2016... Le ministère de l'économie a demandé aux Israéliens d'écrire sur les produits qui sont fabriqués dans les colonies de ne plus mettre « made in Israel ». Parce que ces messieurs fabriquent à Jéricho et à Hébron et là où ils veulent, etc. Et dans leurs colonies, surtout en Cisjordanie, parce que là-bas, c'est des conditions idéales parce qu'il y a très peu d'habitants, Jéricho, la mer Morte, tout ça, ils mettent « Made in Israel ». Donc les gens, l'Union européenne importe. Si vous êtes le premier marché de l'exportation israélienne, vous devez le savoir pour comprendre pourquoi BDS est tellement important. Et donc, les Français demandent que les produits israéliens fabriqués dans les colonies, et les colonies, c'est tout ce qui est présence israélienne en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Il n'y en a plus à Gaza puisqu'ils sont partis. Il y en a encore beaucoup à Jérusalem-Est, ce que appelle Jérusalem-Est, qui est 4 fois plus grande que la Jérusalem normale, bouffe la moitié de la Cisjordanie, et en Cisjordanie. Et un imbécile, excusez le terme, je vais dire des gros mots, monsieur le professeur, parce que je ne sais pas me retenir, un imbécile de producteur de vin israélien qui a un vignoble à Psagot. Ceux d'entre vous qui ont été, je vois que plein de gens que je sais ont été en Palestine, c'est la colonie qui est littéralement en face de Ramallah, à même pas 1 kilomètre de Ramallah. Lui, il produit du vin là-bas, monsieur. Et furieux contre le ministère de l'économie française, il fait un procès aux Français en disant « Ils n'ont pas le droit, moi je fabrique dans une colonie, la colonie israélienne, je vais mettre « Made in Israel ». Alors, le Conseil d'État, le ministère de l'économie va au Conseil d'État français. Le Conseil d'État a dit on va demander l'avis de la Cour de justice européenne. Il demande, et il y a une semaine, la Cour de justice nous fait le plus beau cadeau. Elle dit effectivement, c'est un territoire occupé et il est primordial qu'Israël mette que c'est produit dans un territoire palestinien parce que sinon, nous, Cour de justice, et vous, consommateurs, vous entérinez le fait que les colonies et la Cisjordanie et Jérusalem-Est, c'est un territoire souverain israélien. Vous voyez comment l'achat d'une banane a une répercussion sur le plan juridique. Donc, ne vous laissez pas impressionner par le discours de la Hasbara israélienne. La Hasbara, c'est la propagande. Ce n'est pas important. J'ai écouté toutes les radios et j'ai vu tous les canaux de télévision. Ils disent c'est symbolique, ce n'est pas important. Non, ce n'est pas symbolique. C'est très important sur le plan juridique. D'ailleurs, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il dit, Pompei ? Pompei ou Pompeo ? Pompeo. Oui, Pompeo. Oui, quel nom ? Pompeo. Il dit qu'ils ont étudié juridiquement la question des colonies, ils ont trouvé qu'elles étaient légales. Et donc, je pense que cette décision de la Cour, et je vais vous dire comme je pense, puisque je ne suis plus diplomate, je n'ai pas besoin de prendre des pincettes. Ils sont les plus courageux. J'ai travaillé 10 ans à Bruxelles, avec toutes les structures, la Commission, le Parlement et le Conseil, personne n'a le courage de dire « Nous ne devons pas importer des produits fabriqués dans les colonies. » Et dans votre cher pays, la France, Madame Alliot-Marie a fait un circulaire et elle pensait que c'était un appel au boycott des produits cachers. Je lui dis « Mais non, Madame la Ministre, ça n'a rien à faire avec les produits cachers. Ça a à faire avec des produits fabriqués dans les colonies qu'on vend dans vos supermarchés. » Des légumes, des télévisions, vous achetez des avions et des, comment on les appelle, ceux qui bombardent les drones. Bon, en tout cas, je pense qu'elle a bien compris, mais ça n'a pas empêché le circulaire d'exister. Ce circulaire permet de juger des citoyens français parce qu'ils appellent au BDS, ils appellent au boycott, au désinvestissement et à la sanction, qui sont les seuls moyens non violents qu'un peuple en lutte peut utiliser. Et on n'est pas les premiers, avant nous, il y a eu de très importants. Donc, je voudrais rendre hommage au courage des juges de la Cour, plus courageux que les diplomates, plus courageux que les ministres et plus courageux que les gouvernements des 28 pays. Mais je voudrais rendre hommage à quelqu'un d'autre, vous n'allez pas en revenir, à mes amis israéliens. Tous ne sont pas mes amis, mais beaucoup sont mes amis. Il y a 5 jours, a été publié en Israël un appel qui n'a eu aucun écho dans nos respectables médias, sauf dans Mediapart, et grâce à un journaliste qui s'appelle René Bachmann. Plusieurs dizaines de grands noms, de très grands noms, dont Elie Barnavi, l'ancien ambassadeur à Paris, mais aussi Avram Burg, ancien président de la Knesset, aussi Zev Sternhell, grand historien que le professeur Laurence connaît très bien, vous devrez l'inviter d'ailleurs ici. Tous les prix Israël, vous savez, le prix Israël, c'est comme le prix Nobel israélien, tous les prix Israël depuis une dizaine d'années ont signé. Qu'est-ce qu'il dit ? Génial. Il dit, à la suite de la décision de la Cour, ça ne suffit pas de mettre le labeling, labeling en anglais voulant dire l'origine du produit, ça ne suffit pas de mettre que ce n'est pas Israël. Il faut interdire ces produits sur le marché européen. Parce que sur le marché européen, ça veut dire qu'ils rentrent sans payer de taxes. Donc, ils sont en compétition avec ce que vous produisez dans les 28 pays. La minute où ils sont interdits, ça ne veut pas dire qu'ils sont interdits, ça veut dire qu'il faut qu'ils payent une taxe. Et pourquoi vous voulez que le monsieur qui veut acheter une banane achète une banane 50% plus chère que la banane qu'il va acheter dans un supermarché français? Et donc, je voudrais vraiment leur rendre hommage et vous demander de raconter à tout le monde pour casser cette occultation volontaire. Voilà des acteurs, encore des acteurs. Les militants israéliens qui se battent contre l'occupation et pour la reconnaissance aux Palestiniens d'un droit à l'État, c'est de très grands acteurs, vraiment. Et il ne faut jamais les oublier, parce que justement, ils sont aujourd'hui, ils étaient des héros il y a une vingtaine d'années. C'est eux qui ont ouvert le chemin d'Oslo. Mais aujourd'hui, avec la transformation de la société israélienne en une société d'extrême droite nationaliste raciste, ils ont physiquement peur. Je ne vais pas dire des noms, mais j'ai parmi eux des amis qui ne savent plus quoi faire pour protéger leurs enfants, parce que leurs enfants sont menacés à cause de leur activité, eux, comme parents militants en Israël. Et donc, allez chercher sur Mediapart l'appel de ces intellectuels, il est magnifique. Et d'ailleurs, il dit, non seulement il faut les interdire, mais ce n'est pas seulement par moralité pour la justice aux Palestiniens, mais aussi beaucoup parce que l'occupation nous intoxique à nous aussi. Elle intoxique le pays occupant, la société occupante. Ça me rappelle beaucoup ce que ce Faisal Husseini a dit ça il y a 25 ans, en disant, parce qu'il militait avec beaucoup d'amis israéliens, et il disait, moi et mes amis israéliens, on milite parce que l'occupation, elle ne pervertit pas seulement la société occupée, mais aussi la société occupante. Voilà, donc je vous ai dit ce que je pense de ces deux acteurs, parce que pour moi, c'est des acteurs très importants. Je dirais que, après, bien sûr, il y a les grands acteurs, que je n'ai pas besoin de vous les dessiner, vous les connaissez tous. Alors, une petite représentante de la Palestine qui a eu le bonheur d'avoir... je ne vous ai pas raconté le titre qu'a trouvé Roland Dumas. Roland Dumas souffle à l'oreille de François Mitterrand, donc, pour cette première visite de Arafat à Paris. Le lendemain de la soirée où Mitterrand demande à Dumas de plancher sur un nouveau titre qui n'est pas aussi méprisant que représentant de bureau d'information, il dit, Monsieur le Président, j'ai trouvé. Pourquoi on ne ferait pas comme Charles de Gaulle et le Québec? Vous savez ce que le président de Gaulle avait trouvé pour faire plaisir à ses amis québécois sans enfreindre la loi, parce qu'ils ne sont pas un État. Et tous ne veulent pas se séparer du Canada. De Gaulle avait appelé le représentant québécois en France le délégué général du Québec. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a le mot Québec. Et si on disait la même chose pour les Palestiniens, délégué général, parce que c'est délégué général, c'est comme une entreprise, mais de Palestine, pas de l'autorité palestinienne, pas de l'OLP, de Palestine. Et j'y tiens beaucoup à cause de cette histoire. Et lorsque 90% du temps, on me dit délégué de l'autorité, je dis oui, bien sûr. Vous avez eu un appel de l'ambassade d'Israël pour vous dire qu'il n'y a pas de délégué de Palestine. C'est exactement le contraire. Il n'y a pas, dans Oslo, il n'y a pas de représentation diplomatique. Donc, il n'y a que ce titre que vous êtes les premiers à avoir donné. Et les autres pays vous ont suivi jusqu'à ce que devienne aujourd'hui le titre d'un représentant de la Palestine et chef de mission diplomatique qui a rang d'ambassadeur. Donc, Elias Sambar, il a rang d'ambassadeur et il est chef de mission diplomatique. Mais on n'est pas une ambassade comme toutes les ambassades. On va rester un cas spécial pendant longtemps. Moi, ça ne me déplaît pas. Et donc, pour passer à des acteurs un peu plus importants que ceux dont je vous parle, et ça, c'est ce qu'il a appelé la réalité dont parlait Toynbee. Le problème des diplomates des grandes nations indépendantes, c'est qu'eux, ils ne vont pas sur le terrain. Vous savez qui va sur le terrain, plus que les diplomates? Les chercheurs dont beaucoup parmi vous là qui sont là. Ils sillonnent, ils connaissent tout le monde. Ils vont dans les universités et les universités les amènent pour leur montrer les colonies. Ou les gens qui travaillent dans la coopération bilatérale, ça veut dire les fonctionnaires du ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation, qui ont des accords avec la Palestine. Charles Josselin, voilà, je ne suis pas complètement Alzheimer, Charles Josselin est arrivé en Palestine comme ministre de la coopération internationale avec 50 membres dans sa délégation pour signer un accord de coopération. Je lui dis, monsieur le ministre, 50, il faut que je trouve une salle dans le ministère. Parce que si vous êtes 50, il faut 50 Palestiniens face à vous. Il me dit, Leïla, c'est le seul moyen qu'ils connaissent la réalité. Ça, c'est un acteur intelligent. Ça veut dire que sous prétexte qu'il a besoin dans chaque domaine d'un fonctionnaire du ministère concerné, il leur ouvre les yeux en les invitant dans une délégation. Et donc, je dirais qu'il y a un vrai besoin, ne me comprenez pas mal, ceux qui luttent là-bas, en Afrique du Sud, au Soudan ou à Beyrouth, ils ont besoin des diplomates ici, parce que leur parole ne peut pas arriver sinon. Parce que bien sûr, comme vous voyez, on est tous des terroristes, on est tous des islamistes, on est tous des chocolats et des noirs. Si vous faites confiance uniquement à l'impression générale, on ne saura jamais la réalité. Et donc, c'est très important que les diplomates relient, en tout cas, disons, le message qui correspond aux valeurs du pays concerné, du diplomate, qu'il soit français ou européen. Mais bien sûr aussi, il y a, lorsque vous êtes, même lorsque vous êtes un petit minus comme moi, dont le titre varie selon les périodes, vous êtes collé à votre président. Là où il va, vous allez. Après avoir, bien sûr, fait beaucoup avec lui sur le terrain, donc je l'ai beaucoup connu à Yasser Arafat au Liban, j'ai commencé en 68, j'avais 18 ans, et donc j'ai eu le temps de bien le connaître au Liban, où on était très présents quelquefois aux dépens des malheureux Libanais, mais bon, c'est comme ça, il y a aussi des erreurs qui se font. Je tiens à vous dire que dans les manifestations d'aujourd'hui, on scande des slogans pour la Palestine et pour le mouvement démocratique syrien. Et donc, après, j'ai été, donc, il m'a nommé lui-même représentant de la Palestine, même si je lui avais dit non, mais il ne m'a pas écouté, parce qu'il a eu l'intelligence de comprendre, après la première intifada en 87, l'irruption des femmes sur la scène politique palestinienne sur le terrain. Et le pauvre, tout ça, il l'a vu à la télévision, parce qu'en 87, il n'avait pas le droit d'aller en Palestine. Moi non plus, d'ailleurs. Mais on regardait cette télévision, et la majeure partie des personnes dans les manifestations qui confrontaient les soldats israéliens qui les tabassaient, qui leur tiraient dessus, étaient des femmes. Et donc, il est venu me dire... Il faut que tu sois la représentante de la Palestine. Je dis, mais moi, je suis mariée au Maroc, j'ai un mari, je veux faire une famille. Il ne m'a pas écoutée. Derrière mon dos, il a appelé mon mari et il m'a nommée. J'étais la première femme. Mais lui, voulait, il a proposé à 4 femmes, d'ailleurs. Malheureusement, les 3 autres ont refusé. Parce qu'il a eu l'intelligence, parce que Arafat n'a pas inventé la poudre comme idéologue. Ce n'est ni Marx, ni Engels, ni Che Guevara, ni même... Oh là là... mon ami Mandela, ok ? Mais il a un rapport extraordinaire de flair politique, de flair à l'égard de son peuple. Il est vraiment le représentant de son peuple. Son cœur bat au même rythme que chaque citoyen palestinien là où il est. Et il a un flair avec les acteurs, les grands acteurs de la scène diplomatique, qu'ils soient les présidents français, il en a eu beaucoup avec François Mitterrand et avec Jacques Chirac, mais aussi les acteurs européens. Et je pense que, parce que le représentant, comme je suis restée 13 ans chez vous, pendant les 13 ans, chaque fois qu'Arafat était à Paris, j'étais avec lui. Et donc, si vous avez des antennes, et si vous regardez, si vous comprenez, vous comprenez plein de choses. Et la première chose que j'ai compris, professeur Laurence, c'est que la politique, toi, l'historien, la politique n'est pas faite seulement par les institutions, mais aussi par les hommes et les femmes qui assument des responsabilités importantes politiques, d'où leur importance. Qu'ils soient présidents de l'Assemblée nationale ou qu'ils soient chefs d'État ou qu'ils soient ministres des Affaires étrangères, ça fait une très grande différence. D'ailleurs, c'est comme ça que les présidents, les ministres sont jugés différemment. Il y a des ministres qui n'ont laissé aucun souvenir aux Palestiniens. Il y a des présidents qui n'ont laissé aucun souvenir. Je vais être diplomate, je ne vais pas les nommer. Mais il y a ceux qui sont devenus des héros aux yeux des Palestiniens et des Arabes en général. Je veux dire pourquoi. Et pour ne pas faire un truc chronologique, on va commencer par la fin. Chirac. J'étais outrée lorsque j'étais encore à Beyrouth. On m'appelle, on me dit que le président est décédé, ce à quoi je m'attendais depuis longtemps puisqu'il était malade. Et on me demande de parler de ma relation avec lui, avec son cabinet, avec la France, puisque c'est un système présidentiel où le président fait aussi la politique étrangère. Et Hubert Védrine était ministre, mais aussi Dominique de Villepin, aussi Hervé de Charette. Et donc, je parle beaucoup dans les médias sur ce que signifie Chirac pour les Palestiniens. Il signifie beaucoup. Je suis abasourdie de voir toutes les télévisions, beaucoup de radios, dire cet incident à Jérusalem où Chirac a créé un incident avec l'armée israélienne pour devenir populaire aux yeux du monde arabe. Et j'ai pété un plomb. Le pauvre, le premier sur lequel je suis tombée, c'était le journaliste de France 24. J'étais dans un horrible petit studio à Beyrouth qui n'avait pas de ventilation. Et lui, il m'interviewait par... duplex, et il a eu le malheur de dire ça. Et le pauvre, il a eu le malheur de dire ça, et je l'ai lynché. Je dis, est-ce que vous pensez vraiment qu'en 1996, okay, ça veut dire, il est là depuis je ne sais plus combien d'années, la question palestinienne est au cœur de ce débat, Oslo a déjà 3 ans, lui, il va aller inventer un incident. Pourquoi vous n'avez pas fait votre boulot, monsieur le journaliste? Vous avez demandé à votre consul général français, Stanislas de Laboulaye, combien de temps on a négocié le programme de Jacques Chirac à Jérusalem-Est. Parce que, bien sûr, le président allait à 2 visites officielles. C'est ce qu'on fait toujours, chez les Européens en tout cas. On va d'un côté et de l'autre en même temps pour que personne ne se fâche. Au moins jusqu'à Oslo. Et donc, il a fait sa visite israélienne, avec inclus Jérusalem-Ouest, comme si elle était déjà reconnue comme israélienne, ce qui n'est pas encore le cas. Et tout ce qui concernait la partie est, ça veut dire la vieille ville, ça veut dire le Haram el-Sharif, le Saint-Sépulcre, Sainte-Anne, les associations palestiniennes qui sont à Jérusalem, il a dit ça. Après, avec Ramallah et Gaza, c'est la Palestine. Donc je ne veux voir aucun ministre israélien, aucun député israélien, aucun journaliste israélien. Je ne veux même pas la voiture blindée israélienne qu'il avait conduit pendant tout le séjour côté israélien. Et il a fait amener une voiture blindée par avion français parce qu'il ne voulait pas violer les accords d'Oslo et Arafat n'avait pas le droit d'envoyer quoi que ce soit de l'autorité palestinienne à Jérusalem-Est. Je dis pour votre information, ces négociations ont duré 3 mois. Christian Jouret, qui était l'adjoint de Stanislas de Laboulaye, a passé 3 mois à se casser la tête parce qu'il voulait à tout prix imposer une présence. Il dit, bon, d'accord, pas le ministre, le rabbin. Le rabbin va accompagner le président. Non, pas le rabbin. Bon, pas le rabbin. On va lui envoyer des journalistes. En tout cas, pendant 3 mois, et c'est parce qu'il a refusé la présence israélienne, en répétant, c'est un territoire palestinien occupé, d'après toutes les résolutions du droit et la position officielle de la France. Ces corpus séparés, même Jérusalem-Ouest n'est pas reconnu. Mais il a fait la concession parce qu'il est tout sauf anti-israélien, comme on prétend qu'il est. D'ailleurs, rappelez-vous qui a reconnu la responsabilité de l'État français. Hein. Et donc, c'est ce qu'on appelle un incident. Moi, il vient me dire, il faut dire que j'avais de bonnes relations avec lui, « Leïla, il faut que vous soyez avec nous à Jérusalem-Est. » Je dis, mais je vais vous faire des problèmes, président. Il me dit, mais non, j'ai 3 présidents du CRIF avec moi, pourquoi vous ne seriez pas là, vous aussi? Effectivement, il y avait 3 présidents du CRIF. Et donc, j'étais avec eux, mais je voulais être discrète. Donc, j'étais à la fin de... Il avait 100 journalistes avec lui, 100, plus sa délégation. Et bien sûr, comme il était à Jérusalem-Ouest, il a voulu ce qu'il a appelé une visite privée à l'Est. C'est vrai, tu vas devoir me faire taire. Et donc, à l'Est, il dit, comme c'est une visite privée, il dit, je vais descendre, pour vous qui connaissez Jérusalem, par la porte neuve, ça veut dire une des portes de l'enceinte de Jérusalem, qui donne directement sur le quartier chrétien, le quartier arménien, le Saint-Sépulcre, le Haram el-Sharif, et finalement Sainte-Anne. C'est un parcours comme ça. Il aura fait le souk, qui est quand même représentatif de la population de Jérusalem-Est, et les lieux saints musulmans, juifs et chrétiens. Parfait programme. Parce que vous êtes en Palestine, pas seulement une mission diplomatique, vous êtes aussi une mission de représentation des catholiques de Palestine. C'est très important. Depuis la guerre de Crimée, vous avez deux chapeaux. Et ce chapeau-là, il ne l'oublie pas à Chirac. Et donc, il ne va pas abandonner les chrétiens de Palestine parce que, je ne sais pas qui était le premier, c'était Netanyahou déjà, que Netanyahou voulait lui imposer des responsables israéliens comme s'il reconnaissait Jérusalem-Est comme annexée à Israël. Et donc, ce que la presse a appelé incident pour qu'il devienne populaire, c'était uniquement la fin de ce harcèlement. Et je suis très contente parce qu'à force de gueuler et à force d'interpeller sur les antennes les journalistes qui étaient avec nous, ils ont fini par parler. Nous étions donc à la fin de cette délégation, dans une rue qui fait à peine 2 mètres. Et lorsqu'on arrive, on descend de nos voitures, je vois que toutes les échoppes sont fermées avec le rideau. Et ce n'est pas vendredi, donc je leur dis, mais pourquoi vous avez fermé vos rideaux? Je leur crie en arabe. Ils me disent, l'armée nous a donné des ordres, l'armée nous a donné... Parce que c'était l'armée, pas la police. Hein. Les bérets verts, c'est de l'armée israélienne. C'est des gardes frontières, c'est parmi les plus féroces. Et je dis, mais ne les écoutez pas, vous ne savez pas qui il est, c'est Jacques Chirac. Alors ils se mettent à lever les rideaux, ils sont encouragés. Et Chirac, qui comprend en 3/4 de seconde, le premier qui lève son rideau, il va vers lui et lui tend la main. Et l'autre, il va mourir de bonheur que Jacques Chirac le salue. Il lui donne un chapelet ou une orange ou un âne ou un chameau qu'on fait à Bethléem. Et donc, commence à monter, même dans la délégation de la presse, une excitation, parce que sinon ça aurait été mortel. On avait à peine fait 10 minutes que nous commençons à entendre des vrombissements, comme si c'était des motocycles. Et puis, on commence à sentir qu'on a des choses dans les pieds, donc on sursaute, et on voit qu'il y a des caddies, vous savez, comme dans les terrains de golf. Il y a des voitures à 4 roues qui rentrent dans des endroits très étroits et qui sont électriques. Ils rentrent dedans, littéralement, dans les mollets des gens qui sont à la fin de la délégation, du convoi. Non, mais il est à pied, ce n'est pas un convoi. Donc, du groupe, disons. Alors, Chirac, il est loin devant, mais il fait 2 mètres. Et nous, on est tous derrière. Et vraiment, lorsque les journalistes ont commencé à parler là, à la mort de Chirac, moi je ne savais pas que Pierre Aski était en sang lorsqu'il est sorti. Pierre a dit sur France Inter, moi je suis sorti en sang parce qu'ils m'ont porté, vous savez, il n'est pas très grand, et ils m'ont jeté sur une vitrine. Pierre Veil a dit, moi j'étais couvert de bleu. Alors ça, c'était pour que Chirac se fasse populaire dans le monde arabe. C'était la punition de Chirac. Alors, certains journalistes qui ont un rapport personnel avec le président courent vers lui. Lui tire comme ça sur le parce que tout ça, c'était comme vous avez vu dans les images, très, très dense, très serré, très violent. Ils lui disent, président, ils sont en train de nous rentrer dedans avec leurs caddies, qui sont des caddies militaires d'ailleurs. Et il lui faut du temps pour comprendre. Et lorsqu'il comprend, là, il se fâche beaucoup. Et il s'arrête et il leur dit ce que vous avez tous entendu. Et donc, l'incident et la conséquence de la politique de Chirac... Il n'est pas la cause, il n'est pas soudain, il ne s'est pas réveillé un jour pour découvrir que l'armée israélienne à Jérusalem est une armée d'occupation. Donc c'est très important. Et moi, je pense que la presse, elle est aussi un acteur. Pour moi, je le regrette beaucoup pour mes successeurs qui n'ont pas compris ça. Moi, Chirac me disait, je t'ai entendu à France Inter, tu as dit ça et ça et ça. Je dis, mais président, vous n'entendez que moi à France Inter, je viens vous dire tout ça avec le président Arafat tous les mois. Il me dit, oui, Leïla, mais lorsque tu le dis à 60 millions de Français, ça veut dire que tu ne mens pas. Et donc, vous voyez comment la presse a un poids très important dans ce qu'on appelle la diplomatie ou ce que moi j'appelle le travail des acteurs. Et donc, très important. Mais... Chirac n'était pas le seul avec qui. Moi, j'ai eu 1 an de François Mitterrand. Après, il est décédé, malheureusement. Et j'ai eu les 12 années de Chirac. Et donc, je n'étais pas là lorsque Mitterrand a joué ses grands rôles, mais il doit vous raconter ça, parce que dans ses magnifiques 5 livres sur la Palestine, qui sont la meilleure référence jamais faite dans toutes les langues sur la Palestine, il y a aussi ça. En 82 et 83, c'est François Mitterrand qui sauve 2 fois... pas seulement Arafat, mais l'OLP en entier. Ça veut dire qu'il envoie Claude Cheysson, que Dieu ait son âme, un grand diplomate, acteur et chercheur, pour convaincre Arafat de quitter Beyrouth avec ses combattants. Et c'est les navires français qui évacuent Arafat et les combattants, avec tous les honneurs dus à des combattants. Arafat décide de revenir à Tripoli. Il évacue Arafat une deuxième fois en 83 et il l'amène en Grèce, puis en Tunisie. Et donc, moi, je n'ai pas assisté à tout ça, donc je ne peux pas en témoigner. Mais par contre, en quelle année il est mort, le président Mitterrand? 96? Bon. Et donc, juste avant, il était malade, vous vous rappelez, il a dit qu'il allait dire au revoir à tous ceux qu'il aime. Et donc, même dans son état très faible, il allait partout dire au revoir à ses amis. Donc, Arafat arrive et Arafat est un homme à qui on ne peut pas dire non. Descendant de l'avion à Orly, il me dit, Leïla, je veux parler à Mitterrand. J'ai dit, Abou Ammar, Mitterrand n'est plus président. Il me dit, je sais, imbécile, je veux parler à François Mitterrand. Je dis, François Mitterrand, il est malade. Et ce que je lis dans les journaux, c'est qu'il est tous les jours dans un endroit pour faire ses adieux à ceux qu'il aime. Il m'a dit, trouve-le-moi. Et lorsque Arafat te dit qu'il trouve-le-moi, si tu ne le trouves pas, ça veut dire que tu es débile mental. Donc, on arrive à l'hôtel, j'appelle l'Élysée, qui je vais appeler? J'appelle l'Élysée, le protocole de l'Élysée, je dis, voilà, le président Arafat veut à tout prix parler au président Mitterrand, je lui ai expliqué tout, mais il veut quand même lui parler. Alors, il me dit, oui, je vais vous donner le téléphone de Madame Mitterrand. Monsieur Mitterrand est maintenant un citoyen normal. Vous allez appeler sa femme et vous dites à sa femme que le président Arafat veut parler. Elle vous dira, on ne sait pas s'il est là, s'il est en vadrouille, s'il est ailleurs. Et donc je téléphone. Il était en fait à Paris, rue de Bièvre. Et elle est très gentille. Elle me dit tout de suite, attendez, je vais aller vous l'appeler. Alors moi, avec les yeux écarquillés, j'ai obtenu ce qu'il voulait. Alors j'appelle Arafat, je dis, viens, viens. Et donc je lui donne le téléphone. Comme ce n'était pas planifié, moi je pensais qu'on allait avoir un rendez-vous et un téléphone spécial avec un interprète, etc. Et je lui dis, bonjour monsieur le président, bonsoir monsieur le président, c'est la nuit, bonsoir monsieur le président, vous allez m'excuser, mais comme je ne savais pas que ça allait être aussi rapide, je vais tout de suite vous passer le président Arafat. Voilà, donc je m'éloigne par discrétion pour le laisser parler. Et j'entends Arafat qui lui dit, dans son anglais cassé, Mr. President, Mr. President, you have to come and see me in Gaza. You have to come and see me in Gaza. Alors, l'autre doit lui dire yes, yes, sans comprendre. Après, il commence à développer pourquoi you have to see. Il faut que vous venez me voir à Gaza. Vous devez venir me voir. Et puis, donc, Arafat commence à l'expliquer que maintenant, à Gaza, il y a vraiment un projet de paix. On va avoir un État en Palestine en 99 et qu'il est un des acteurs de cette solution des deux États puisqu'il l'avait sauvé déjà deux fois et que Mitterrand doit venir voir de ses propres yeux l'effet de sa politique. Et puis, je regarde la tête de Arafat. Il a l'air complètement... Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a? Il ne parle pas l'anglais. Je dis quoi? Le président Mitterrand ne parle pas l'anglais. Alors, imaginez. Le téléphone est là. Je colle ma tête à Arafat. Ce n'est pas évident avec son tarbouche là, avec sa kéfir. Président Mitterrand, je viens de coller ma tête à la tête du président Arafat pour faire la traduction consécutive. S'il vous plaît, essayez de comprendre parce qu'on n'était pas préparé pour une conversation aussi spontanée et sympathique. Et l'autre se met à parler en arabe et moi je traduis en français et c'était bouleversant. Bouleversant. Parce que Mitterrand était en train de mourir. Et il lui disait, mais je ne peux pas venir, je suis malade. Et Arafat ne voulait pas comprendre. Il faut que tu viennes, il faut que tu vois ce que tu as fait, où on en est arrivé, c'est grâce à toi. Ya haram. Et l'autre lui répétait, je suis très malade. Je suis en train de dire au revoir à tous les gens que j'aime, mais je sais, je suis de très près les nouvelles, je te souhaite bonne chance, je suis très heureux d'avoir contribué à cette solution-là. Et c'était la dernière fois qu'ils se sont vus. Lorsqu'il est arrivé pour les obsèques, il était persuadé que les obsèques étaient publiques et qu'elles étaient à Paris. Donc à l'aéroport, je lui ai dit non. Il a écrit tout ce qu'il veut, il ne veut pas d'obsèques publiques. Donc là, il va aller être enterré à Jarnac. Et les obsèques seront à Notre-Dame, mais il ne sera pas présent, ni lui, ni son cercueil. Ni... Il me dit, non, je dois le voir, lui. Je dis, Abou Ammar, il est mort, Il me dit, oui, je dois aller prier sur sa dépouille. Je dis, mais comment tu vas dire, il n'est plus président, il est chez lui, je ne sais pas où il est. Débrouille-toi. On recommence la rengaine et je finis par savoir qu'il est dans son appartement devant l'école militaire et on me dit, vous demandez à sa femme. J'appelle sa femme, on me dit, elle est à Jarnac. Je demande son fils Jean-Christophe et je lui dis, je regrette, mais il ne veut pas comprendre. Il tient à tout prix qu'avant qu'il soit mis en terre, surtout qu'il n'y aura pas des funérailles pour le public, de se recueillir devant, c'est drôle, Chirac a dit la même chose, de se recueillir devant sa dépouille. Et Jean-Christophe me dit, mais il est le bienvenu. J'ai dit, où ça? Il me dit, dans l'appartement de mes parents, devant l'école militaire. Je dis, ça ne vous dérange pas? Il me dit, non, pas pour le président Arafat. Et donc, je renvoie toute la délégation. Ils ont failli me couper la tête, mais je les ai tous renvoyés. Je suis partie, moi et Arafat, et son chef de sécurité, à cet appartement. Il y avait des couronnes de fleurs en bas, pas beaucoup, parce que les gens ne connaissaient pas l'adresse de Mitterrand une fois qu'il n'était plus président. Et on monte, et tout de suite, il y avait des gens dans le salon, on n'est pas entré dans le salon, et Jean-Christophe nous a conduits directement dans la chambre, où le président était sur un lit tout simple, sans rien autour, avec une bougie, et vraiment égal à lui-même, comme s'il dormait. Et vraiment, le président Arafat a prié pendant 10 minutes devant la dépouille de Mitterrand. Moi, j'étais bouleversée, bouleversée. Et derrière nous, j'entendais Jean-Christophe avec son sanglot qui faisait un hoquet comme ça. Et je pense que c'est la seule personnalité qui n'était pas membre de la famille qui a pu vraiment prier la dépouille de Mitterrand avant qu'il ne soit amené à Jarnac. Maintenant que je me rappelle, Chirac a demandé la même chose lors du décès de Arafat, parce que il était déjà venu 2 fois à l'hôpital de Clamart, l'hôpital militaire de Clamart, et il suivait vraiment l'évolution de Arafat pendant les 10 jours où il était hospitalisé. Et puis il m'a dit, nous avons un sommet à Bruxelles, je ne peux pas ne pas y être, inclus pour vous. Donc il faut à tout prix que je vienne faire mes adieux au président. J'ai dit, vous êtes le bienvenu, président. Donc il est venu, on avait déjà fait toutes les ablutions, et c'est ce qu'il faut dans la tradition musulmane. Il était dans une pièce dans l'hôpital en attendant qu'on aille à l'aéroport pour le départ. Et j'ai mis tout le monde à l'extérieur et j'avais fait la même chose, sauf que c'était des sièges un peu plus longs. Et Chirac s'est recueilli pendant 20 minutes, tout seul, devant la dépouille de Arafat. Et après, il est parti à Bruxelles. Et donc, je dirais, vous voyez, lorsqu'on est témoin de choses comme ça, on réalise combien la part personnelle de l'acteur, qu'il soit le président d'un peuple comme Arafat ou le président d'un grand pays comme la France, ou bien... quelqu'un qui a eu le courage d'avoir... Qu'est-ce qui caractérise Chirac et Mitterrand et Charles de Gaulle et tous les grands? C'est que ce sont des gens qui ont des convictions. Moi, si vous me demandez quelle est mon impression, après 25 ans, j'ai fait exactement 25 ans de diplomatie, en commençant par l'Irlande et en finissant par l'Union européenne, c'est le fait que la femme ou l'homme politique ait des convictions personnelles, en plus des directives qu'ils ont de la diplomatie du pays concerné. On peut être un brillant diplomate. Si on n'a pas des convictions et le courage de les défendre, je pense qu'on ne fait pas l'histoire. Et je suis très heureuse de vous avoir parlé de ces quelques-uns. J'aurais voulu vous parler d'un autre, mais mon heure est terminée. C'est Faisal Husseini, qui, pour ce qui n'est plus l'avenir, malheureusement, de Jérusalem, puisqu'elle est totalement annexée et défigurée depuis que M. Trump a donné un feu vert au gouvernement le plus dangereux d'Israël de faire ce qu'ils veulent à Jérusalem. Faisal Husseini a fait, dans les quelques années où il a été le directeur de la Maison d'Orient, et Chirac l'a beaucoup soutenu dans ça, un travail remarquable. Et je pense qu'on peut dire qu'il n'est pas mort naturellement, parce que depuis qu'il est parti, malheureusement, ni l'autorité palestinienne, ni l'OLP, ni même les gens de Jérusalem sont arrivés à choisir un représentant à la hauteur pour faire de cette ville unique, magnifique, autre chose que ce qu'elle est devenue. Ça veut dire un genre de bunker, littéralement de bunker, où les colonies qui entourent la ville, vous qui allez, vous savez ça, on ne la voit plus, la ville. On ne voit que les colonies qui ressemblent à des bunkers. Comme quoi, les traumatismes sont récurrents dans la mémoire des peuples. Merci beaucoup.